Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, 64 jours pour jour, c'est du 7 janvier, depuis l'assassinat de l'ancien premier ministre de la RDC et héros national Patrice Emery Lumumba. À l'occasion de la commémoration de ces drames, à Beni au Nord Kivu, certains acteurs sociaux pensent que la lutte pour l'indépendance totale du pays reste inachevée. Ils en appellent à l'éveil patriotique des Congolaises et Congolais pour atteindre cet objectif. D'intenses combats s'observent ce vendredi autour de la localité de Ngungu, dans le territoire des Massissi au Nord Kivu, entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Selon nos sources, l'armée congolaise a réussi à déloger ce matin les rebelles de Kasake, une colline qui surplombe la localité de Ngungu. L'invité de ce journal est le directeur pays de World Resource Institute, Hakizimwami Eli, nous parle du projet pilote concernant la rénovation au monument major Vangu, situé au quartier Panzi, dans la commune d'Ibanda, Bukavu, au sud Kivu. Bonjour à tous. 17 janvier 1961, 17 janvier 2025, cela fait exactement 64 ans que Patrice Emery Lumumba, alors premier ministre du Congo, a été assassiné. À Beni au Nord Kivu, certains acteurs sociaux pensent que la lutte pour l'indépendance totale du pays reste inachevée. Ils en appellent ainsi à l'éveil patriotique des Congolaises et Congolais pour atteindre cet objectif. C'est ce que nous dit de Beni André Kitenge.
Benjamin Asimoni, coordonnateur de l'ONG Jeunes Patriotes pour la consolidation de la PJPCP basée à Beni, pense que les Congolais n'étaient pas prêts pour diriger le pays à l'époque où Lumumba réclamait l'indépendance.
C'était opportune de réclamer l'indépendance, mais les procédés n'étaient vraiment pas complets parce que les Congolais n'étaient pas prêts pour diriger et ça a fait à ce que la gouvernance de notre pays échappe toujours à la notion de la planification. Tout parvient à nous surprendre. Lumumba nous a fait accéder à l'indépendance, mais il nous a rappelé que nous devons nous battre pour notre indépendance.
Fabrice Mulohali, cet autre acteur de la société civile, est presque du même avis, mais il pense que la date du 17 janvier est essentiellement commémorative, alors qu'elle devrait servir aux uns et aux autres à réfléchir à la lutte menée par Patrice Emery Lumumba.
Aujourd'hui, 64 ans après, on continue à commémorer. Sa lutte a été inachevée, parce que n'ayant jamais eu des bons successeurs capables de conduire tout ce que celui-ci avait comme pensée politique, tout ce que celui-ci avait comme vision du Grand Congo, c'est resté une date de commémoration, tout court, ce qui est déplorable. On aurait bien aimé qu'il ait, après lui, autant de Lumumba capable de pérenniser cette lutte et de la transformer en une réalité vécue.
André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Nous le disions tantôt, au Nord Kivu, on signale d'intenses combats ce vendredi autour de la localité de Ngungu dans le territoire de Massissi. Des offensives lancées depuis hier par les forces armées de la RDC pour tenter de reconquérir diverses localités occupées depuis quelques temps par les rebelles du M23. Les FARDC ont réussi à déloger ce matin les rebelles de Kasake, une colline qui surplombe la localité de Ngungu selon nos sources dans la région. Chris Mukand.
Depuis la perte la semaine dernière de la localité de Ngungu, les FARDC ont multiplié leurs efforts pour sa reprise. Hier, les combats ont redoublé d'intensité dans la zone autour des Kasake et des Ruzirandaka. Après qu'ils aient été repoussés et chassés de la colline des Kasake, les rebelles du M23 ont largué plusieurs bombes en direction des Ruzirandaka. Alors que les combats se poursuivent, des sources concordantes dressent un bilan de 2 morts et 2 blessés graves parmi les civils à Ruzirandaka. En revanche, sur le front de Massissi Centre, le calme est revenu ce vendredi matin. Nous apprenons que les rebelles du M23 ont légèrement élargi leur rayon opérationnel en s'emparant de la localité des Kanilly. C'est là qu'ils ont dressé leur position alors qu'ils continuent à occuper Massissi Centre. Les affrontements d'hier autour de Massissi Centre, Katale, Rukitsa et Katongole ont donné lieu une fois de plus à des mouvements de déplacement des populations. Des familles entières sont allées se mettre à l'abri dans l'enceinte de l'hôpital de Massissi. On déplore la mort des 2 personnes touchées par des balles perdues. 3 autres ont été blessées, indiquent des sources de la société civile. Goma, Chris Mukande, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, toute la population doit s'impliquer dans la recherche de la paix en développant un esprit de patriotisme. C'est en vue de faire échec au plan de l'ennemi, celui de déstabiliser la RDC. C'est la principale recommandation assortie de la première journée du colloque des vœux patriotiques pour la paix organisée jeudi à Bounia par le bureau provincial de la réserve armée pour la défense, RAD en sigle. Selon l'organisateur, l'objectif de cette activité est de sensibiliser la population à la défense de la patrie pour mettre fin à la guerre à l'est du pays. Les détails avec Isaac Raymond.
Des centaines de personnes, dont des acteurs politiques et de la société civile, des leaders religieux, des représentants des jeunes et des militaires ont pris part à cette conférence. Plusieurs thèmes ont été abordés dans ces colloques, notamment l'esprit et les stratégies d'un grand visionnaire pour la paix, l'engagement de la jeunesse pour la paix et le développement, la géostratégie et la défense de la patrie, comment bâtir une nation forte et prospère. L'objectif de cette démarche est l'éveil du patriotisme à chaque citoyen pour mettre fin à la guerre en Ituri. Selon les autorités militaires en Ituri,
la paix est un bien commun, l'affaire de nous tous, car le destin de la RDC se trouve entre les mains de nous tous.
Le représentant du gouverneur à ses assises a dénoncé la complicité de certains fils de l'Ituri avec l'ennemi pour déstabiliser l'est de la RDC. Claudine Nzeni a exhorté la population à s'unir pour défendre la province en suivant les modèles de patriotisme de Laurent Désiré Kabila et de Patrice Lumumba.
Certains fils égarés recrutent et forment certains jeunes. Nous devons nous serrer les coudes pour défendre nos intérêts, pour résister contre les ennemis de la paix.
Une séance de prières pour les pays a clôturé cette première journée de ces colloques sur l'éveil des patriotismes en Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Toujours à Ituri, le gouverneur doit assumer le bilan de sa gestion de la province pendant bientôt 4 ans de l'état de siège en tant que commandant des opérations militaires. Il ne doit pas prendre les députés élus de Ituri pour son bouc émissaire pour l'échec de la pacification de cette province. C'est la réaction ce vendredi du président de l'Assemblée provinciale de Ituri. Le député Sami Djakonga réagit ainsi aux propos du gouverneur. Le général Luboya, qui sur nos antennes déplorait hier le non-accompagnement des élus du peuple dans la recherche de la paix et de la réconciliation des fils de Ituri. Pour Sami Djakonga, il n'appartient pas aux députés qui ont mandat de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, de mettre fin à la guerre et favoriser les retours des milliers de déplacés installés au site. Il est au micro de Isaac Raymond.
Les élus provinciaux avaient déjà exprimé leur volonté d'accompagner le gouvernement dans la recherche d'une paix durable, à la réconciliation entre les Ituriens. Toutefois, nous avons senti une méfiance de la part du gouverneur. Nous pensons que le gouverneur Boya ne doit pas prendre les élus pour ses boucs émissaires. Tout le monde connaît aujourd'hui le bilan de l'état de siège pendant ces 4 ans de gestion. C'est entre autres tous ces camps de déplacés que nous voyons ça et là. Le bilan, c'est aussi le nombre de morts qu'on a enregistré sous l'état de siège et tous ces villages abandonnés, vidés, à la merci des groupes armés. Comment doit-on accompagner quelqu'un qui refuse même de recevoir les députés, qui veut lui présenter la situation sécuritaire de leur circonscription? Il doit tout simplement s'assimer et assimer surtout le bilan de sa gestion en tant que commandant des opérations en Ituri. Il n'appartient pas aux élus de ramener les déplacés dans leur village respectif.
Autre nouvelle sur la fréquence de la paix. Le gouvernement provincial de Maïndombe exprime sa vive indignation après des actes de vandalisme survenus lors d'une manifestation des enseignants mardi à Inongo. Ces enseignants ont saccagé les installations et les biens de la Caritas ainsi que la Direction nationale des contrôles et de la paix des enseignants d'Inakope. Face aux dommages importants causés, le ministre provincial de l'éducation, Justin Moulapi, annonce l'ouverture des procédures disciplinaires contre les enseignants responsables de ces actes. Il précise que ces mesures administratives s'ajoutent aux poursuites judiciaires déjà lancées par la DINACOPE contre les auteurs. Justin Moulapi, ministre provincial de l'éducation du Maïndombe, est joint par Irène Mbomaluzolo.
Nous avons déjà pris des dispositions. Je me suis réuni avec le gouverneur en place. Il y a eu un tête-à-tête. J'ai convoqué les coordinateurs de cet enseignant-là. En tout cas, il y a une action disciplinaire qui est en train d'être initiée à sa charge. Ça, c'est du côté administration. Du côté judiciaire, on a demandé au directeur du DINACOPE de les traduire en justice. À l'heure où nous parlons, il est déjà traduit en justice et la justice va faire son travail. Cette personne, c'est lui qui a signé les mémos là. Lui connaît les groupes d'enseignants là qui ont fait le jeu des pierres partout. Donc c'est à lui maintenant au niveau de la justice de dénoncer tout le monde. Bon, administrativement, pour un premier temps, on ouvre l'enquête en commençant par l'action disciplinaire à celui qui a engagé le groupe là. S'il cite les autres et les enseignants là, la procédure va continuer. Le gouvernement provincial est tout à fait contre ces actes-là. Les enseignants sont libres de revendiquer, mais revendiquer par la voie légale. Mais ce que les enseignants ont fait, c'est inacceptable. Nous condamnons ça avec la grande énergie.
Des dommages importants ont été enregistrés, notamment la destruction de la quincaillerie, du panneau d'affichage et de la centrale photovoltaïque de la Caritas, ainsi que de l'infrastructure et des équipements informatiques de la Dinacopé. Rappelons que les enseignants ont agi de la sorte pour réclamer leur salaire du mois de décembre à la Caritas. Cependant, le responsable local de la Caritas Inongo précise que sa structure ne pouvait pas être tenue responsable de ces retards, car elle n'a pas encore reçu les fonds de la part du gouvernement pour le paiement des enseignants. Par ailleurs, les délégués des réseaux de la société civile œuvrant dans la protection des défenseurs des droits humains de l'espace Kasaï mutualisent leurs efforts dans la mise en œuvre des actions communes. À la suite d'une session de 2 jours clôturée hier à Kananga, ils ont décidé de travailler pour améliorer le cadre d'information et d'échange dans les dénonciations et les plaidoyers. Un extrait de leur déclaration lu par Angèle Missinga de l'ONG Femmes d'Action. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Tenant compte du contexte de travail au sein de nos réseaux respectifs et de nos similarités sur plusieurs aspects dans la zone géographique Grand Kasaï, le passé commun, les réalités culturelles, linguistiques, etc., avons résolu de mettre en place une synergie des réseaux provinciaux de l'espace Grand Kasaï, dénommée Coordination interprovinciale des réseaux de protection des défenseurs des droits humains du Grand Kasaï, en sigle CIRPDDH/GK, dont l'objectif général est de fédérer les efforts pour les actions communes en matière de protection des défenseurs des droits humains et d'améliorer la qualité de travail des défenseurs des droits humains en les rendant plus professionnels par des approches citoyennes en collaboration avec les autorités publiques, autres structures et institutions œuvrant dans la promotion et protection des droits humains, prenant l'engagement de travailler dans le respect des instruments juridiques garantissant les droits humains.
Parlons de la remise officielle des bâtiments scolaires mardi aux sous-divisions éducationnelles d'Insélé 1 et 2 dans la ville de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par Madame Raissa Malou, ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à l'Ependombé. Cette remise rentre dans le cadre du projet dénommé Amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement primaire en Insélé Kinshasa RDC. Jean-Pierre Elali Koko, reportage.
Au cours de cette cérémonie, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou a salué le partenariat entre le gouvernement, la coopération coréenne et l'UNICEF dans ce domaine. Pour elle, l'acquisition de ces nouveaux bâtiments boostera à coup sûr la formation des élèves.
Des études l'attestent. Les élèves qui évoluent dans des établissements bien équipés obtiennent de meilleurs résultats que leurs pairs dans des conditions d'apprentissage précaires. Aujourd'hui, en dotant nos écoles de ces infrastructures modernes, nous consolidons les bases d'un avenir prometteur pour nos enfants.
La représentante adjointe de l'UNICEF, Dr Marianne Psila, a réaffirmé l'engagement de son agence à accompagner les efforts du gouvernement dans ces domaines avant de présenter ces beaux bâtiments.
Nous inaugurons aujourd'hui les fruits de ces travaux. 60 salles de classe neuves, 2 salles polyvalentes, 10 bureaux et 80 portes-latrines au bénéfice de 11 écoles primaires de Célé. Plus de 10 000 élèves bénéficieront directement de ces infrastructures qui contribueront à offrir aux enfants un cadre d'apprentissage sûr et propice à leur épanouissement.
Lancé en avril 2023, ce projet entre dans le cadre du programme de gratuité de l'enseignement de base. Son coût global est estimé à 7,2 millions de dollars américains.
Merci à vous, Jean-Pierre et Lali Ikoko. Rendons-nous au Congo central, où la deuxième phase du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 12, axe Manterne-Nchela-Singini, a déjà commencé. L'entame de ces travaux intervient 2 jours après la réception provisoire par l'Agence nationale des grands travaux de la partie réhabilitée. La société civile du territoire de Lukula, qui s'est réjouie de l'avancement de ces travaux sur cette voie, souhaite que ces travaux s'achèvent dans le meilleur délai pour faciliter l'évacuation des produits agricoles. Le point avec Nana Plurich Mambou.
La deuxième phase de ce projet de réhabilitation de la route nationale numéro 12, axe Manternetché-Lasingini, d'une durée d'une année, consiste à la construction des ouvrages d'assainissement et d'asphaltage de 40 km de route, partant de la cité de Nlemba jusqu'au-delà de la cité d'Nsioni en territoire de Lukula. La société civile du territoire de Lukula qui se réjouit indique que grâce à la fin des travaux de la première phase, les commerçants des produits agroalimentaires qui achètent à Nlemba évacuent désormais leurs marchandises aisément vers les centres de consommation. Signalons que ces travaux consistant à asphalter 118 km de route partant de l'agglomération de Manterne jusqu'au village Singini en passant par la cité de Tchela et à la construction d'une dizaine d'ouvrages tels que ponts et autres avait été lancé par le ministre des ITPR Alexis Jissaro au mois de juillet 2023. Ils sont exécutés par l'entreprise chinoise Sino Hydro dans le cadre du partenariat sino-congolais. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan du Sud, l'émotion est vive à la suite de la publication des vidéos en provenance du Soudan en guerre. Elles montrent des atrocités commises à l'encontre des Sud-Soudanais et des Soudanais originaires de l'Ouest et du Soudan par des membres de l'armée soudanaise tués par soif de vengeance à l'encontre des paramilitaires FSR. Le ministère des Affaires étrangères à Djouba a convoqué l'ambassadeur soudanais mercredi 15 janvier. Hier, des manifestations ont eu lieu à Djouba. Les discours de haine prolifèrent et la société civile se mobilise pour demander des comptes. Un couvre-feu nocturne a par ailleurs été ordonné ce vendredi, annonce l'inspecteur général de la police nationale.
L'invité.
C'est Haki Zoumouami Eli. Il est directeur pays des World Resource Institute. Cette organisation soutient la mairie de Bukavu à rendre sain l'environnement de la ville. Il a visité l'un des projets pilotes au monument Major Vangu, situé au quartier Panzi, avenue Essence, dans la commune d'Ibanda. Haki Zoumouami Eli s'entretient ici avec Jean Kassami.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Quelle est la mission primordial de votre organisation?
Notre organisation appuie les gouvernements et aussi les populations pour s'adapter au changement climatique, mais aussi pour faire à ce qu'il y ait un environnement sain pour la santé de la population. Par exemple, vous voyez ici, avec ce que nous faisons avec la ville de Bukavu, les appuis que nous donnons pour reverdir la ville de Bukavu, mais aussi pour lutter contre les catastrophes liées au changement climatique, notamment la plantation des arbres dans les ravins et aussi la lutte contre la sédimentation et les érosions, mais aussi la lutte contre les dépôts des déchets solides dans les lacs, dans les rivières et aussi dans les barrages.
Peut-on inscrire ce projet dans le temps?
Comme vous le voyez, ce n'est pas un très grand projet, c'est un projet pilote. Nous voudrions montrer aux gens que le changement est possible. Cette place-là où nous sommes, c'était une place où tout le monde venait déposer de l'immondice. Mais maintenant, il y aura des gens qui viendront prendre des photos parce que ça a changé dans moins d'une année. Ça a beaucoup changé. Donc notre projet, c'est un projet de 3 ans. Mais on ne peut pas seulement continuer à donner, mais aussi on essaie de changer les mentalités, l'éducation, pour que les gens s'approprient de ce projet. C'est ça qui va assurer la durabilité de ce résultat que nous avons ici. Ici, nous donnons aussi l'appui à la ville d'Uvira, parce que nous ne travaillons pas seulement au niveau de Bukavu, mais aussi nous avons d'autres activités au niveau national. Nous apportons un appui au gouvernement congolais pour le suivi des couverts forestiers, mais aussi le partage d'informations sur la dynamique des couverts forestiers au niveau national.
La RDC est très vaste, 26 provinces, c'est vraiment énorme. Dans combien de provinces intervenez-vous actuellement?
Nous intervenons dans la province du Sud Kivu. Nous avons fait un travail au niveau de la province du Nord Kivu, à Bukavu aussi sur les questions d'énergie. Mais aussi on a eu un travail sur l'énergie dans la province de Tchopo. Et nous sommes en train de développer un projet ou chercher les ressources parce que nous ne sommes pas des bailleurs. Dans la province de Bakongo, par exemple, nous avons fait une visite au terrain et nous avons constaté qu'il y a un grand problème de déforestation. Quand vous voyez la quantité de charbon dans les forêts de Bakongo vers la ville de Kinshasa, c'est énorme. Donc, nous sommes en train de voir comment développer un projet qui travaille sur les questions d'énergie pour voir comment les gens peuvent migrer de l'énergie charbon vers d'autres alternatives. Nous intervenons sur base des financements que nous recevons des bailleurs. Et pour mobiliser les bailleurs aussi, il faut l'appui du gouvernement. Et donc, ça veut dire qu'après le travail que nous faisons ici, nous envisageons aussi d'étendre cette activité, parce qu'ici, je vous ai dit, c'est un projet pilote, d'étendre cette activité vers d'autres villes, comme la ville d'Okinshasa, par exemple. Nous travaillons sur une base des priorités du gouvernement. Nous sommes en train de développer une stratégie de notre organisation pour la RDC. Nous travaillons avec le gouvernement pour voir comment on peut aussi sélectionner certaines priorités du gouvernement qui cadrent avec aussi notre priorité pour pouvoir aussi intervenir dans d'autres provinces.
Alors, avec quel ministère interagissez-vous directement?
Nous interagissons directement avec le ministère de l'Environnement et des Développement durable, le ministère de l'Aménagement du territoire, mais aussi avec tout ce que nous faisons, par exemple, nous allons beaucoup nous intéresser aussi sur les questions de l'énergie, c'est-à-dire que nous serons obligés de travailler aussi avec le ministère de l'Énergie. Donc, nous sommes dans une approche multidisciplinaire et aussi avec l'agriculture. Parce que si vous voyez la plaine d'Oralotis, ça c'est un grenier potentiel. Malheureusement, il n'est pas exploité de manière maximale. Il y a une opportunité de développer, par exemple, l'irrigation assistée par l'énergie. Et comme ça, les gens peuvent produire pendant l'année au lieu d'attendre les pluies. Parce qu'il y a la sécurité alimentaire qui est très importante. Vous voyez la ville de Bukavu, maintenant plus de 2 millions d'habitants. Vous voyez, aussi une affaire d'activité agricole. Comment les populations ici vont vivre? Ils vont manger quoi? Est-ce qu'avec tous les problèmes qu'on a ici, les problèmes liés au changement climatique, comment on peut sauver ces populations? Voici comment nous voyons, comment on peut travailler avec le gouvernement, que ce soit le gouvernement au niveau national, que ce soit le gouvernement au niveau provincial, mais aussi les villes, les mairies.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité était interrogé par Jean Kassami. Ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné par Jacques-Yves Molima et mis en onde par Alain Goy. Grâce à Mzati Massanzi était à la présentation. Merci de l'avoir écouté.